Les admirations de Stéphane Mallarmé, Théophile Gautier ou les amitiés, Charles Baudelaire, Théodore de Banville, Edgar Poe, possiblement Frédéric Mistral, influencèrent-elles son art d'une façon discernable ?
Il faut bien entendu distinguer ce qui relève de l'amitié d'une part, de l'influence d'autre part. Mallarmé, de toute façon, était un poète qui admirait volontiers ce qu'il avait précédé, au-delà des différences d'inspiration. Il a admiré Gautier, et on n'oubliera pas que Baudelaire lui-même a beaucoup admiré Gautier et lui a dédié les Fleurs du Mal. Il a admiré Banville, il a admiré Baudelaire dès qu'il l'a découvert, il a évidemment admiré Edgar Poe, qui a été une influence durable. Il a été très ami avec Mistral dans son jeune temps, et cette amitié a perduré, mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu une influence de la part de Mistral sur la poésie de Mallarmé. En revanche, il y a eu une influence de Gautier, il y a eu une influence de Banville, et surtout de Baudelaire, au moins dans les premières années, les années 60. Les premiers poèmes dits du Parnasse contemporain sont très fortement influencés par les Fleurs du Mal. Dans le cas de Baudelaire, il s'est ensuite éloigné de lui. Il a dit un jour, il a écrit plus exactement, à propos de Léon Dierks, qui était lui un admirateur de Le Comte de Lisle, et d'ailleurs Mallarmé aussi était un admirateur de Le Comte de Lisle. Il a dit à propos de Léon Dierks, qui était un admirateur de Le Comte de Lisle, « S'en éloignera-t-il comme moi de Baudelaire ?» C'est le signe qu'après avoir beaucoup admiré de Baudelaire, il s'en est éloigné au moment de sa grande crise du milieu des années 60. En revanche, il a gardé une admiration constante à Gautier, à Banville et surtout à Edgar Poe. Est-ce qu'on peut retrouver la trace de ses influences dans son œuvre ? À moins d'être un spécialiste, c'est assez difficile, parce que l'œuvre de Mallarmé a une cohérence et une unité qui font qu'il n'est pas évident de retrouver dans son œuvre trace de telle ou telle influence à un moment donné, sauf peut-être dans le cas de Baudelaire déjà cité tout à l'heure.
Et si on va de l'autre côté du fil du temps, peut-on trouver, après Mallarmé, des poètes, des auteurs qui soit se réclamèrent de lui ou de son art, soit dans l'œuvre desquels on peut trouver des traces de l'œuvre de Mallarmé. Je pense à des personnes qu'on voit souvent attachées au poète Mallarmé, comme Maurice Maeterlinck, Paul Valéry, Paul Claudel, André Gide, Léopold Fargue.
On peut peut-être mettre à part Maeterlinck, qui n'a pas eu de contact très étroit avec Mallarmé et qui avait une inspiration assez particulière, assez propre et liée aussi à la culture germanique qui le distinguait des symbolistes français. Pour ce qui est des poètes qui ont été les disciples de Mallarmé, qui sont entrés en littérature par Mallarmé, comme Claudel, comme Gide, comme Valéry, il y a eu évidemment une très forte influence. Ils ont beaucoup admiré Mallarmé, avec parfois des réserves, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait du Mallarmé. Ils n'ont pas fait du Mallarmé, ils ont chacun trouvé leur voie propre, en partie grâce à Mallarmé qui ne les a pas enfermés dans son système à lui, mais qui leur a ouvert peut-être des horizons. Et par-delà les éloignements, une fois que ces poètes ont acquis la maturité, on peut retrouver cependant des traces. Pour prendre le cas de Claudel, il est évident par exemple qu'on pourra parler d'une différence fondamentale entre la poésie de Claudel et celle de Mallarmé. Pour autant, il y a un Claudel qui a était très proche de Mallarmé, sans peut-être en avoir toujours conscience, c'est le Claudel de connaissance de l'Est, qui retrouve sans doute, au moment où il est en Asie, et découvre une culture autre, quelque chose de l'influence de Mallarmé. Gide, lui aussi, va s'éloigner à un moment donné de Mallarmé, mais dès le départ, il avait conscience de ce patronage mallarméen, au point d'écrire à Valéry en 91, donc il a une vingtaine d'années, ce qu'on peut appeler la logique des trois M. Cette logique des trois M, c'est lorsqu'il dit, lorsqu'il fait un petit bilan de la situation contemporaine en 1891, donc Mallarmé pour la poésie, voilà le premier M, Maeterlinck pour le drame, donc le côté théâtre, quant au troisième côté, c'est-à-dire le roman, eh bien, il va dire, le troisième M, évidemment, ce ne sera pas Gide à proprement parler, mais il dit « moi pour le roman ». Et ce n'est pas un hasard si Gide a voulu faire, par exemple avec les faux monnayeurs, le roman du roman, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le méta-romanesque, comme Mallarmé a été le poète du méta-poétique.
Et à propos d'art, l'art pour l'art, décrit-il la production poétique de Stéphane Mallarmé, où celle-ci, au-delà de l'émotion esthétique, est-elle à comprendre le monde et les hommes qui l'habitent? Aspire-t-elle d'ailleurs à cela? Pour le citer, la poésie est l'expression par le langage humain ramené à son rythme essentiel du sens mystérieux des aspects de l'existence. Elle doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle. Est-ce qu'on peut dire qu'exprimer une chose l'a fait accéder au réel?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, l'art pour l'art, c'est une formule un peu passe-partout, qui a eu sa fortune évidemment au XIXe siècle, qui a pu servir pour Gautier, qui a pu servir pour un certain nombre de poètes parnassiens, qu'on a appliqué à Mallarmé. Mallarmé n'a jamais revendiqué cette formule, même si on peut lui donner une dimension qui rejoint un petit peu la logique mallarméenne. Je parlais tout à l'heure de poésie métapoétique, de poésie de la poésie ou de poésie au second degré. Dans cette mesure-là, on peut dire que Mallarmé, effectivement, peut se rapprocher d'une certaine logique de l'art pour l'art. Mais cette logique de l'art pour l'art tente en quelque sorte à faire de l'art son propre objet. Au détriment, bien entendu, du rapport traditionnel de l'art à la réalité. Vous citez la formule de Mallarmé. Or, ce qui ressort de cette formule, c'est que Mallarmé, contrairement à une idée reçue, n'est pas le poète qui s'est enfermé dans sa tour d'ivoire artistique ou poétique et qui aurait complètement délaissé la réalité. Mallarmé est quelqu'un pour qui la réalité existe. Et toute sa vie, toute son œuvre ont été marquées par le souci de comprendre cette réalité. Lorsqu'il dit effectivement que la formule que vous citez,
la poésie
et l'expression
par le langage humain
ramenée à son rythme essentiel du sens mystérieux des aspects de l'existence, il ne s'agit pas d'exprimer la réalité en tant que telle, lorsqu'il parle d'expression, il s'agit d'exprimer le sens de cette réalité. Autrement dit, toute la fonction de la poésie, c'est de donner sens à la réalité dans laquelle nous vivons. Et pour donner sens à la réalité dans laquelle nous vivons, il est un instrument essentiel, un instrument fondamental, c'est le langage.
Quelle fonction Mallarmé attachait-il à la ponctuation? Et quel intérêt à son abandon, à la typographie, à la mise en page? Je pense par exemple à celle d'un coup de dé. Et pour poursuivre, a-t-il pensé à la couleur pour ses éditions? A-t-il regretté qu'il fût impossible ou difficile d'éditer au XIXe siècle en couleur?
La ponctuation, pour commencer, Mallarmé, lorsqu'il s'interroge sur la ponctuation, c'est pour distinguer la prose du vers. C'est-à-dire que la ponctuation, pour lui, est caractéristique de la prose. C'est un instrument prosaïque. En revanche, dans le cas du vers, d'un point de vue théorique au moins, la ponctuation n'est pas indispensable parce qu'il y a déjà une ponctuation qui est constituée par la disposition du texte sur la page, autrement dit, une ponctuation par les blancs. Ça ne veut pas dire que dans la poésie de Mallarmé, il n'y a pas de ponctuation. Il a ponctué comme tout le monde, il a commencé par ponctuer comme tout le monde, y compris sa poésie, et ce n'est que tardivement qu'il a imaginé de se passer de la ponctuation, et pas d'ailleurs de façon systématique. Le premier poème non ponctué date de 1886, c'est celui qui est défini, non pas par un titre, mais par son incipit, « M'introduire dans ton histoire ». À partir de là, il y a plusieurs poèmes qui sont dénués de toute ponctuation, même si dans l'édition définitive des poésies, qui est posthume, parfois des points finaux ont été rajoutés, alors qu'à l'intérieur du poème, il n'y avait pas de ponctuation et que Mallarmé ne tenait sans doute pas non plus au point final. Mais voilà, donc la ponctuation, c'est vraiment quelque chose qui est, pour lui, caractéristique de la prose. Ce qui fait qu'à partir du moment où il se met à penser la poésie en tant que distincte de la prose, il peut se passer de la ponctuation, il peut utiliser d'autres procédés, comme la spatialisation, évidemment le coup de dé, ou bien encore l'utilisation de la typographie. Là encore, il y a un premier essai avec le faune, où on voit l'utilisation non seulement du romain bas de casse, mais aussi des capitales, des petites capitales, et de l'italique à l'intérieur du poème. Et puis ce sera beaucoup plus systématique dans le cas du coup de dé, qui est un poème spatial, en même temps qu'un poème typographique, comme Claudel lui-même l'a défini. C'est un poème à la fois typographique et cosmogonique.
Et quant à la couleur ?
Quant à la couleur, il n'y a aucune attestation dans les écrits de Mallarmé de quelque désir que ce soit de produire de la couleur dans sa poésie. Je pense qu'il avait une prédilection pour cette spécificité du noir sur blanc. La poésie, c'est du noir sur blanc. Et pour une raison tout à fait symbolique qu'il a définie dans ses textes en prose, lorsqu'il dit, par exemple, cette formule très célèbre et très importante, « Tu remarquas, on n'écrit pas lumineusement sur champ obscur. L'alphabet des astres, seul ainsi s'indique. L'homme poursuit noir sur blanc. » Que signifie cette proposition, cette formule ? Tout simplement que, traditionnellement, il y a une écriture qui n'est pas noire sur blanc, mais une écriture qui est lumineuse sur champ obscur. Quelle est cette écriture lumineuse sur champ obscur ? C'est l'alphabet des astres. Ce sont les constellations qui sont réputées traditionnellement comme l'écriture de Dieu, le poète par excellence, le créateur par excellence. Et Dieu est le seul qui puisse écrire lumineusement sur champ obscur. C'est-à-dire qu'il puisse créer de la lumière à partir de l'obscurité et qui est en même temps le vrai créateur, puisque la création du monde, c'est une profération. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mallarmé ne se situe pas dans cette logique d'une poésie magique, d'une poésie véritablement créatrice. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus dans cette conception d'une espèce de sacralité de la poésie capable de créer des réalités qui n'existent pas, de créer ex nihilo. D'où cette logique de renversement de l'écriture divine en écriture humaine. Et s'il est vrai que Dieu écrit lumineusement sur champ obscur avec l'alphabet des astres, ce qui renvoie à toute une tradition poétique bien attestée au XIXe siècle, chez Hugo par exemple, eh bien l'homme, lui, ne peut qu'écrire que noir sur blanc. C'est-à-dire que ce noir-là est symbolique du fait que la poésie ne crée pas, elle ne crée pas au même titre que l'écriture divine, elle est simplement profondément un mystère. Le noir est la couleur du mystère. Et le noir sur blanc, c'est donc le signe même de ce qu'est la poésie pour Mallarmé.
Et entre...
C'est le négatif de l'écriture divine.
Ah oui. Et entre Dieu et le poète, il peut y avoir des mythes. Est-ce que les mythes étaient un champ de l'activité humaine qui intéressait, de la production humaine qui intéressait Mallarmé, auquel il s'est confronté, qu'il a utilisé?
C'était évidemment un champ auquel il s'est intéressé, comme tout poète, puisque traditionnellement, la poésie, depuis l'Antiquité, a rapport avec la mythologie. Et même au XIXe siècle, encore au XIXe siècle, le matériau essentiel de l'écriture poétique, c'est le mythe. Les poètes utilisent les mythes comme un arsenal de figures. Les métaphores sont des métaphores puisées dans l'univers mythologique, ce qui fait que la poésie du XIXe siècle est essentiellement encore une poésie mythologique. En réaction contre cette logique-là, par exemple, Baudelaire, c'est celui qui va revendiquer un changement de lieu de la poésie qui ne sera plus dans un univers mythologique de convention, mais dans l'univers réel, et l'univers réel, c'est le monde contemporain, c'est la cité industrielle, c'est Paris, d'où évidemment les tableaux parisiens des Fleurs du Mal. La modernité baudelairienne prend le contre-pied donc du recours traditionnel à la mythologie qui fait que la poésie vit dans un univers de convention. Mallarmé, lui, ne va pas situer la modernité de la même façon, c'est-à-dire qu'il ne va pas revendiquer dans la lignée de Baudelaire une poésie qui serait urbaine, une poésie qui serait parisienne, qui offrirait des tableaux parisiens. Il va s'intéresser au mythe. Mais s'il s'intéresse au mythe, c'est parce qu'il s'est intéressé au langage, et notamment à la science du langage, à la linguistique. Et il a découvert chez le principal linguiste du temps, Max Müller, qui est non seulement un linguiste, mais aussi l'inventeur de la mythologie comparée, il a découvert que la linguistique, la science la plus avancée en matière de langage, a été capable, au milieu du XIXe siècle, de déconstruire les mythes, de montrer que les dieux de l'Antiquité ne sont rien d'autre, en fait, que des mots qui désignent des phénomènes naturels. Et cette démonstration se fait par la science du langage, par l'étymologie, qui découvre donc que derrière les mythes, il n'y a pas des puissances divines, il n'y a que des réalités naturelles, et surtout une réalité naturelle qui s'appelle le drame du couchant, pour l'esprit dit primitif. Par conséquent, derrière tout nomen, et Mallarmé va reprendre la paronomase qui est propre aux linguistes de ce temps, derrière tout noumen, le mot noumen en latin désigne la divinité. Eh bien, derrière tout noumen, il y a toujours un nomen, c'est-à-dire un nom. Tout noumen est réductible à un nomen. Et Mallarmé, qui était professeur d'anglais, a traduit un manuel de mythologie anglais, très inspiré de la linguistique de Max Müller. Le titre, c'est « A Manual of Mythology in the Form of Question and Answer », manuel de mythologie sous la forme de questions et de réponses. Et à la différence des manuels de mythologie de l'époque qui se contentaient de raconter les histoires des dieux de l'Antiquité, il va aussi raconter l'histoire des dieux de l'Antiquité, mais il va surtout déconstruire ces divinités pour montrer que derrière ces divinités, il n'y a rien d'autre qu'une réalité verbale qui renvoie elle-même à une réalité naturelle. Et c'est important, évidemment, pour le poète, qui va continuer à utiliser des mythes dans sa poésie, qu'on pense à l'après-midi d'un faune, mais ces mythes sont en même temps exhibés, comme dans la poésie traditionnelle, mais ils sont aussi exhibés de telle façon qu'ils sont déconstruits par le poème, à condition évidemment que le lecteur soit attentif à scruter ce qui est en cause dans un poème comme l'après-midi d'un faune ou comme dans beaucoup d'autres poèmes de Mallarmé qui recourent aux matériaux mythologiques. Il s'agit donc de déconstruire les mythes en même temps qu'on les réutilise.
Au-delà des mythes, est-ce que Mallarmé s'est confié sur ses sources d'inspiration ou les connaît-on Il y en a une qui, enfin, qui est connue au moins de moi, qui est pour un tombeau d'Anatole. Est-ce que c'est une exception? Une exception inachevée, d'ailleurs.
Le tombeau d'Anatole, comme...
Et comme où il dit, je vais... enfin, où on voit comme l'inspiration et le décès de son enfant.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres sources où il aurait pu se confier en disant que tel événement, telle connaissance l'a amené à produire telle poésie?
On peut toujours évidemment retracer l'origine de tel ou tel poème, les circonstances, et s'apercevoir que la poésie de Mallarmé, qui est souvent partagée entre la grande poésie, le recueil des poésies de 1899 pour le recueil posthume, d'une part, et d'autre part, les petits vers de circonstance, qu'il a aussi beaucoup accumulé à une certaine période de sa vie, et ce partage est d'une certaine façon un peu artificiel, parce que tous les poèmes de Mallarmé, peut-on dire, sont toujours liés à des circonstances. Des circonstances qui peuvent être des circonstances de sa vie personnelle, de son environnement, des circonstances qui peuvent provenir aussi de ses lectures. Mais ce qui est caractéristique de Mallarmé, c'est que même si les circonstances sont au départ, toute l'écriture de Mallarmé vise aussi à décirconstancier, si on peut utiliser ce néologisme, à décirconstancier les poèmes de telle façon qu'ils n'apparaissent plus déterminés, prédéterminés par quelques circonstances que ce soit. Alors évidemment, le tombeau d'Anatole, c'est un cas particulier, c'est sans doute le cas le plus douloureux pour Mallarmé. Lui qui a écrit des tombeaux pour un certain nombre des poètes qu'il admirait, le tombeau de Charles Baudelaire, le tombeau d'Edgar Poe, le tombeau de Verlaine, s'est trouvé confronté, évidemment, à cette nécessité intérieure de produire le tombeau de celui qui n'était pas encore poète et dont il pouvait espérer qu'il deviendrait un jour poète, son fils Anatole, mort à 8 ans. Et comme on sait, il n'a pas réussi à faire ce tombeau. Nous n'avons que des notes préparatoires et ce chantier a été finalement assez tôt abandonné par Mallarmé, une espèce d'aveu d'impuissance devant quelque chose qui était sans doute trop douloureux.
Attachait-il, sur, au-delà de l'inspiration, mais dans le monde profane, attachait-il de la valeur au titre de prince des poètes?
Aucune.
Il en fut content ou même pas?
Disons que sa fierté personnelle n'était sans doute pas indemne de toute... de tout plaisir de se voir confirmé prince des poètes, mais cette élection de prince des poètes est en même temps une espèce de plaisanterie sérieuse. Et les poètes avaient dû faire acte de candidature pour cette élection suite à la mort de Verlaine, puisque Verlaine était le précédent prince des poètes. Et d'ailleurs, ce n'est sans doute pas Mallarmé qui a rédigé son propre acte de candidature, même s'il l'a revendiqué par la signature, et il n'accordait pas beaucoup d'importance à ce genre d'honneur, comme il l'écrit d'ailleurs à Claudel à cette époque-là. Pour lui, il n'y a pas de royauté poétique, il n'y a pas de prince des poètes, et en même temps, bien entendu, il pouvait être flatté de cette reconnaissance par ses pairs, puisque c'était les poètes qui élisaient le prince des poètes. Donc il était gagnant sur les deux tableaux, il n'était pas dupe de la chose, et en même temps, il en profitait, comme pour les mardis d'ailleurs. Il n'était pas dupe non plus de cette espèce de culte qu'il suscitait, et en même temps, il en profitait quand même.
Qu'aurait-il rétorqué à l'accusation d'être un, sinon le meurtrier du langage? Une accusation, je crois, portée par Blanchot.
Pour Blanchot, ce n'est pas une accusation, mais par ailleurs, pour Mallarmé, ce serait une absurdité s'il avait su qu'on le considérait comme le meurtrier du langage. Au contraire, pour lui, l'essentiel, c'est le langage. C'est la conscience du langage qui fait la poésie. Donc, il est tout à fait éloigné de toute perspective de tuer le langage.
Plutôt un géniteur du langage.
J'ai parlé tout à l'heure de son intérêt pour la linguistique. J'ai parlé aussi très fugitivement de sa crise des années 60. Comment va-t-il sortir de la crise des années 60 ? Par la science du langage, précisément, par la prise de conscience que c'est par le langage que l'homme produit ce qu'il peut produire, c'est-à-dire non pas des créations comme Dieu, mais ce que Mallarmé appelle des fictions. Le langage, c'est une note qu'il a rédigée dans cette époque-là, le langage lui est apparu l'instrument de la fiction. Voilà. C'est par le langage que l'on produit des fictions, et la poésie n'est rien d'autre qu'une fiction produite par le langage, et il n'y a pas que la poésie qui soit une fiction produite par le langage. Tout ce que produit l'homme dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine religieux, dans le domaine social, dans le domaine artistique, tout est fiction, parce que l'homme ne peut pas produire de l'absolu. Et cette fiction n'a qu'un seul instrument, c'est le langage.
Mallarmé croyait donc à la puissance et à l'efficace du langage pour l'humanité. Traitait-il également le verbe ? On a parlé tout à l'heure du verbe. Et particulièrement, est-ce qu'il avait un rapport spécial avec le verbe tel qu'il apparaît dans la Bible ? Ou est-ce qu'il le rangeait dans les mythes, dans la linguistique,
le langage ? Si l'on convoque la notion de verbe avec un V majuscule, nous sommes dans une logique religieuse, nous sommes dans une logique de l'absolu. Le verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le mot latin verbum qui traduit le grec logos, le logos. Et évidemment, pour Mallarmé, le verbe avec un V majuscule n'est plus l'élément essentiel pour le poète moderne. Le poète moderne, c'est celui qui se confronte au verbe avec un V minuscule, c'est celui, par conséquent, qui se confronte à cet instrument de la fiction qu'est le langage. Cela rejoint la formule que j'ai citée tout à l'heure quant à l'écriture humaine comme négatif de l'écriture divine. Il y a une forme de continuité quand même. L'homme poursuit noir sur blanc, mais une continuité inversée, une continuité qui est le négatif de ce qui la précède.
Quelle, entre guillemets, petite flamme habitait Mallarmé qu'il ne voyait pas dans Hugo et qu'il aurait voulu aimer, lui donner ?
Alors cela fait référence, si je me souviens bien, non pas à une citation de Mallarmé, mais à un propos rapporté de Mallarmé par des témoins bien tardifs. Alors il faut se méfier de ce qu'on peut appeler cette doxographie de Mallarmé, c'est-à-dire des propos qui lui ont été prêtés après coup. A-t-il tenu ces propos véritablement ? Ont-ils été arrangés, réarrangés par la postérité ? Ça, c'est un autre problème. Donc il est difficile de savoir ce que Mallarmé a voulu dire lorsqu'il évoquait cette petite flamme. Évidemment, il opposait cette petite flamme d'un poète qui se réputait modeste par rapport à la grande torche que représentait Victor Hugo. C'était une opposition entre la petite flamme et la grande torche hugolienne. Alors évidemment, Hugo, c'est une admiration majeure de Mallarmé, comme pour tous les poètes de son temps, de quelque chapelle qu'ils fussent. Mais en même temps, Hugo, comme il le dit, c'est celui qui a été le vers personnellement. Celui qui a incarné le vers, qui a incarné la poésie au XIXe siècle. Et Mallarmé, évidemment, se distance un petit peu de cette figure du vers personnel, qui est au fond liée au romantisme. C'est le vers dans lequel on entend toujours la voix de celui qui l'aimait. Et comme sa logique poétique était d'une certaine façon plus impersonnelle, eh bien, peut-être que cette petite flamme, c'était aussi une façon d'opposer sa conception du vers à celle du géant de la poésie du XIXe siècle, Victor Hugo. Parce que, comme le dit Mallarmé dans « Crise de verre », Hugo, c'est celui qui rabattit toute la prose, philosophie, éloquence, histoire au vers. Et comme il était le vers personnellement, il confisqua chez qui pense, discours ou narre, presque le droit à s'énoncer. Hugo occupe toute la place. Pas seulement dans le domaine poétique. Puisqu'il était le vers personnellement, il confisqua chez presque chez qui pense, discours ou narre, presque le droit à s'énoncer. Voilà. Plus personne, au fond, ne peut parler en face de Hugo. Et lui représente une autre voix, peut-être plus modeste ou plus ambitieuse d'une autre façon.
Oui, enfin, quand je suis tombé sur ce propos peut-être apocryphe, j'y voyais plutôt la conscience d'une certaine ambition, d'une certaine particularité, d'un manque du gigantesque Hugo. Oui.
Il y a toujours à la fois une part de modestie affectée ou réelle, les deux sans doute, et puis une part d'ambition qui ne s'avoue pas ouvertement, mais qui est très présente chez Mallarmé, bien entendu.
Quel apport Mallarmé fit-il au symbolisme ?
Avant d'envisager la question de cet apport de Mallarmé au symbolisme, il faut rappeler que le symbolisme, c'est un peu un malentendu. C'est une affaire publicitaire lancée par Jean Moréas dans le manifeste dit du symbolisme en 1986. Mallarmé lui-même ne s'est jamais revendiqué comme symboliste, mais par la force des choses, il en est devenu, à son corps défendant, la figure de proue. S'il a apporté quelque chose à ce qu'on appelle le symbolisme, à cette nébuleuse qu'on appelle le symbolisme, on peut dire d'une part l'obscurité. Vous me direz, l'obscurité, ce n'est pas forcément une qualité précieuse, mais en l'occurrence, ce que Mallarmé a apporté au symbolisme et en quoi il a été beaucoup imité par nombre d'épigones, c'est l'idée nouvelle, que l'obscurité pouvait être une valeur poétique. Pendant longtemps, Mallarmé a été un poète méconnu, incompris. Pourquoi ? Parce qu'il écrivait, disait-on, des poèmes absolument incompréhensibles. Autrement dit, c'était un fou littéraire dans le meilleur des cas, un fou tout court dans le pire des cas. À partir du moment où il a été reconnu, notamment grâce à Huysmans dans « À rebours » et Verlaine dans « Les poètes maudits ». À partir du moment où il a commencé à intéresser la jeune génération qui s'est reconnue en lui, il est advenu quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que la critique continue à le considérer comme absolument incompréhensible, mais a commencé à se poser la question de savoir si cette obscurité mallarméenne n'était pas, ne pouvait pas être une valeur, par exemple une valeur musicale. Et par conséquent, beaucoup de ces épigones, célèbres ou moins célèbres, ont abusé aussi de l'obscurité, ce qui fait qu'un jeune écrivain de la même génération que Claudel, Gide ou Valéry, un jeune écrivain encore peu connu, qui lui n'était pas entré par la porte Mallarmé en littérature, Marcel Proust, a pu écrire en 1996 un article qui s'intitulait « Contre l'obscurité », où il s'opposait à cette mode nouvelle de l'obscurité en poésie. Et cette mode nouvelle, elle venait évidemment pour une large part de Mallarmé. Et Mallarmé lui-même a répondu à Marcel Proust par un article dans la même revue Blanche qui avait publié l'article de Proust, sous le titre « Le mystère dans les lettres », ce qui nous ramène à ce qui a été dit tout à l'heure du noir sur blanc. Le langage est profondément mystérieux. Autrement dit, ce n'est pas une obscurité artificielle, c'est une obscurité profonde qui renvoie aux lettres et qui renvoie plus largement à ce qu'on peut appeler l'homme, le mystère humain par excellence, c'est le langage. Comment cet être-là, qui est matière comme le découvre Mallarmé, peut-il produire toutes les significations qu'il produit, pas seulement en poésie, mais dans tous les domaines ? Voilà le mystère profond. Si on n'a pas conscience de ce mystère, si on pense que le langage est clair, transparent, alors on est la dupe du langage, et au lieu de maîtriser le langage, on en est continuellement le simple objet.
Dans un tout ordre encore que... Mallarmé était-il misanthrope? Je pense à le bétail ahuri des humains.
Oui, mais vous pensez évidemment à une citation du Guignot, c'est-à-dire d'un des poèmes de jeunesse, à une époque où Mallarmé était un poète absolument idéaliste, qui trouvait même que Baudelaire n'était pas suffisamment idéaliste. Et dans son idéalisme, la poésie, qui est traditionnellement le langage des dieux, c'était l'équivalent de l'idéal, c'était le rêve, par opposition à la réalité. Cette réalité, elle était évidemment détestée par Mallarmé. Il y avait, à l'époque, une espèce de rejet par la société contemporaine de la poésie, réputée valeur totalement inutile ou dépassée, au regard de valeurs nouvelles qui étaient celles du capitalisme bourgeois et industriel. Les valeurs de l'utile contre les valeurs de l'inutile. Et Mallarmé avait le sentiment à cette époque-là que la poésie était en quelque sorte en exil. Elle était en exil à travers la figure de Victor Hugo, le grand exilé du Second Empire, mais lui-même était exilé dans une sous-préfecture de province, en Ardèche, comme modeste professeur d'anglais, coupé du milieu littéraire parisien. Donc, pour toutes ces raisons, à cette époque-là, il souffrait, évidemment, de ce que l'idéal, le rêve, la poésie fussent méprisés par la réalité contemporaine. Mais ce qui va advenir, c'est la découverte précisément qui se fait au printemps de 1866, la découverte qui va renverser la logique mallarméenne. L'idéaliste qu'il était va devenir matérialiste. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais bien sublime pour avoir inventé Dieu et notre âme. Voilà la découverte qui va discréditer en quelque sorte l'idéalisme initial de Mallarmé et qui va donner à sa poésie une autre mission, une autre fonction. Et la misanthropie, évidemment un peu artificielle, de ses poèmes de jeunesse va disparaître. Au contraire, il va s'intéresser profondément à ses semblables, à ce qu'on peut appeler ses prochains, pour utiliser un terme biblique. Et de ce point de vue-là, il n'y a plus la moindre once de misanthropie chez lui.
Pour rebondir sur la citation évoquant le réel, il écrit, je crois, « En creusant le ver, j'ai rencontré le néant, la seule vérité, et compris que nous ne sommes que de vaines formes de la matière, vaines mais sublimes. » N'imaginait-il jamais d'autre vérité que le rien, que le néant, que le vide, si tant est qu'il distinguait les uns des autres?
Ce n'est pas la signification de cette formule. Cette formule, donc, c'est la formule capitale qui manifeste sa conversion que je viens d'évoquer. Nous sommes au printemps 66, le 28 avril 66. Il n'a pas écrit à son ami Casalis depuis 3 mois parce qu'il est en train de travailler sur Hérodiade, le grand projet qu'il occupe, et c'est la raison pour laquelle, en avril 66, il se met à écrire à Casalis pour lui raconter ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Et ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, c'est une découverte capitale. En creusant le verre à ce point, j'ai rencontré 2 abîmes qui me désespèrent. L'un est le néant auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme. Et je suis encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma poésie et me remettre au travail, que cette pensée écrasante m'a fait abandonner. Et c'est ce qui enchaîne avec « Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. » Et toujours dans la suite, il parlera du rien qui est la vérité, au regard de quoi Dieu, l'âme, la poésie ne sont que des glorieux mensonges. Mais dire que le rien qui est la vérité, ou dire « j'ai rencontré le néant, j'ai rencontré 2 abîmes qui me désespèrent, l'un est le néant », ça ne veut pas dire que Mallarmé considère que rien n'existe. Mallarmé a bien conscience que quelque chose existe, que le monde existe, que la réalité, ce qu'on appelle la réalité, existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire de dire qu'il a découvert le néant, qu'il a rencontré le néant. Cela veut dire tout simplement que lorsqu'on creuse quelque chose, et celui qui creuse, c'est toujours celui qui veut aller au fond des choses, qui est à la recherche, en somme, du fondement. Et comme Mallarmé est un poète, quand il creuse, c'est le vers qu'il creuse. Et s'il creuse le vers, c'est à la recherche du fondement. Et comme ce Mallarmé-là est idéaliste encore, le fondement du langage des dieux, le fondement même de ce vers, ce devrait être Dieu. En somme, creuser le vers, c'est rechercher Dieu dans la poésie. Et en creusant le vers, au lieu de rencontrer Dieu, que rencontre-t-il ? Il rencontre le néant. Ce qui ne veut pas dire que rien n'existe, bien entendu. Des choses existent, mais cela veut dire que ce qui prend la place de Dieu comme le fondement même du système ancien, c'est le néant. Et dire que le néant est au fondement même du système nouveau, cela veut dire tout simplement qu'il n'y a plus, aux yeux de Mallarmé, désormais matérialiste, de valeur absolue. Parce que les valeurs absolues renvoient toujours à quelque chose de divin. Autrement dit, quand on veut aller au fond des choses qui existent, on découvre qu'il n'y a pas de fondement autre que le néant qui prend la place de Dieu.
Et vous-même, une question personnelle, si je puis m'y autoriser, quand vous creusez les vers de Mallarmé, que découvrez-vous ?
Évidemment, je ne découvre ni Dieu, ni le néant, ni quoi que ce soit d'autre que ce qui est au cœur du projet mallarméen, c'est-à-dire ce qui justifie l'entreprise mallarméenne, et notamment ce qui justifie cette entreprise à partir du moment où il a fait cette découverte pour lui capitale, qu'il aura du mal d'ailleurs à penser, parce que comme il le dit, j'ai rencontré deux abîmes qui me désespèrent. Il n'est pas arrivé au néant par la déduction philosophique, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un esprit qui, armé de sa raison, au bout d'un long mûrissement intellectuel, peut dire « j'ai découvert le néant ». Il a rencontré le néant en quelque sorte par hasard, en creusant le vers. C'est un poète qui rencontre le néant. Et évidemment, à partir de cette rencontre ou de cette découverte, il a besoin de la pensée. De la pensée d'un point de vue philosophique. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Qu'est-ce que cela peut impliquer pour moi, poète ? D'où cette crise qui va durer plusieurs années à partir de ce printemps de 1866 et qui sera dénouée précisément à la fin des années 60 par la lecture d'un livre de philosophie, un des plus célèbres, c'est la lecture du discours de la méthode de Descartes. Descartes, au début de la quatrième partie du discours de la méthode, écrit « Je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. » C'est le doute hyperbolique qui va aboutir au cogito. Eh bien, Mallarmé découvre en quelque sorte la notion qui va être désormais capitale dans son œuvre, c'est celle qui tient dans le verbe « feindre ». Descartes feint quelque chose, que rien n'existe, pour voir s'il peut arriver à un point solide à partir duquel il pourrait tout reconstruire. Et ce point solide, ce sera l'idée que s'il doute, il ne peut pas douter qu'il doute. Et s'il doute, il pense, et s'il pense, il est. Bon. Mallarmé, ce qu'il retient de ce processus intellectuel, c'est l'idée de fiction. Feindre, c'est faire comme si. Eh bien, la notion de fiction qui est liée évidemment au verbe feindre, c'est le même mot, cette notion de fiction lui permet de repenser la découverte qu'il a faite en 1866. C'est-à-dire que l'homme ne peut produire que des fictions, comme on l'a dit tout à l'heure. L'homme ne produit jamais de l'absolu, il ne produit que des fictions. Et quel est l'instrument de cette fiction, de ces fictions ? C'est le langage dont on a parlé aussi tout à l'heure. D'où l'intérêt qu'il va développer à partir de là pour la science linguistique, qui va lui faire découvrir à la fois l'état actuel de la science linguistique et aussi qui va lui faire découvrir cette déconstruction qu'opère la linguistique sur les mythes qu'on a évoqués tout à l'heure.
Donc, pour reprendre Valérie, ce n'est pas avec des idées que l'on fait des poèmes ou des vers, mais avec des mots A contrario, les mots du poème, eux, peuvent enrichir, peuvent donner des idées, peuvent permettre de comprendre le monde.
Alors là aussi, c'est une formule rapportée par Valérie dans Degas, Danse, Dessin. Et une formule essentielle, précisément, parce que Degas, le peintre, ne s'adonnait pas seulement à la peinture, mais avait aussi des velléités poétiques. Bon. Et il se plaignait devant Valéry et Mallarmé de n'arriver pas à faire des sonnets, bien qu'il eût, dit-il, beaucoup d'idées. Et c'est là que Mallarmé aurait répondu, mais mon cher Degas, ce n'est pas avec des idées qu'on fait des mots. Qu'on fait des poèmes, c'est avec des mots. Là encore, on retrouve la conscience que pour le poète, le matériau essentiel, c'est le matériau verbal, c'est le langage, ce sont les mots. Et ce sont les mots qui produisent les idées. Voilà. Donc le fondement de tout, puisque Mallarmé est celui qui repense la poésie à partir de son fondement, le fondement de tout, ce sont les mots. Et même en deçà des mots, ce sont les lettres. Ce n'est pas pour rien que les lettres donnent leur nom à ce que nous appelons la littérature. La littérature, c'est ce qui procède des lettres. C'est ensemble l'écriture, toute forme d'écriture. Voilà. Eh bien, Mallarmé, c'est le poète du fondement à partir duquel il s'agit de repenser toute l'entreprise poétique. Des lettres initiales jusqu'au rêve, si l'on veut, du livre qui serait, comme le dit Mallarmé, l'expansion totale de la lettre.
Mallarmé, en tant que technicien, ingénieur de la langue, s'est-il intéressé à la guématria, à la cabale, voire à l'alchimie ?
À la guématria, rien ne l'atteste dans ses écrits. En revanche, il évoque à quelques reprises la cabale et l'alchimie, mais non pas parce qu'il serait cabaliste ou alchimiste, mais parce qu'il considère que la cabale et l'alchimie renvoie à une réalité qui peut être mise en rapport avec l'aventure poétique. Par exemple, lorsqu'il évoque la cabale, il l'évoque dans un temps où un certain nombre de poètes s'intéressent à la cabale, voire manifestent des soucis tout à fait liés à cette dimension, et Mallarmé prend leur défense, non pas parce qu'il serait kabbaliste, mais parce qu'il estime que au moins la Kabbale a le mérite de manifester dans un temps où cet intérêt-là n'existe plus beaucoup, de manifester un intérêt pour les lettres, pour quelque chose comme une valeur des lettres. Donc la Kabbale a ce mérite au moins de restaurer cette valeur des lettres. Quant à l'alchimie, dans ses lettres de 1860 qui évoquent sa transformation poétique, il fait volontiers des alchimistes les ancêtres des poètes. Évidemment, ce n'est qu'une métaphore. Ce n'est pas là non plus parce qu'il veut faire lui-même de l'alchimie. Mais les alchimistes avaient une ambition, celle de transformer le plomb en or. Et Mallarmé a, d'une certaine façon, mutatis mutandis, le désir, lui aussi, de transformer une réalité apparemment vile et sans valeur en quelque chose de valeur qui s'appelle la poésie. Donc l'alchimie peut être une métaphore pour le poète. Les alchimistes, nos ancêtres, comme il dit.
La poésie de Mallarmé peut-elle être qualifiée d'obscure ou de lumineuse, de spirituelle ou d'hermétique ?
Vous pensez évidemment à ce titre
Obscurité lumineuse.
Du colloque de Cerisy, Mallarmé ou l'obscurité lumineuse. Ce titre n'est pas de moi. Ce titre a été en quelque sorte proposé, sinon imposé par l'éditeur, en l'occurrence le grand collectionneur Pierre Berès, qui tenait absolument à cette formule. Bon, comme il était le maître des lieux, on a dit amen. Et en même temps, cette formule, évidemment, peut dire quelque chose de Mallarmé, à la fois l'obscurité et la lumière, et on retrouve le double jeu du noir et du blanc, l'obscurité de la lumière dont on a déjà suffisamment parlé. Bien entendu, il y a une certaine obscurité de Mallarmé, une difficulté en tout cas de Mallarmé, une difficulté de lecture, mais ça n'empêche pas que ceux qui ne passent pas leur chemin devant cette obscurité, ceux qui ne referment pas le livre dès qu'ils l'ont ouvert, ceux-là, à partir du moment où ils se confrontent véritablement à l'exigence de cette poésie, peuvent découvrir de la lumière, si l'on veut, c'est-à-dire découvrir quelque chose qui éclaire à la fois la pensée, qui éclaire aussi de nombreuses expériences que l'on peut faire à la lecture de cette poésie, et qui apporte par conséquent un enrichissement tout à fait intéressant.
Cette possible difficulté d'accès peut-elle être identifiée ou comparée à celle de l'écriture musicale, qui n'est pas accessible à tout un chacun ? L'écriture musicale, je veux dire graphique sur...
Alors on peut dire que l'écriture musicale, elle n'est pas nécessaire pour goûter la musique. Elle est réservée à ceux qui connaissent la musique, qui maîtrisent cette écriture particulière. Alors que l'écriture, elle est normalement le lot de tous. L'écriture par les lettres, elle est le lot de tous. C'est-à-dire que chacun peut, à partir du moment où il a suivi ses classes, où il est passé par l'école, revendiquer la nécessité de compréhension. Sauf que, pour Mallarmé, être allé à l'école n'est pas suffisant pour se confronter véritablement à l'exigence que présente ce qu'il appelle lui-même le mystère dans les lettres. Et lorsque, dans l'article que j'ai cité, Proust lui reprochait au jeune symboliste l'obscurité, Mallarmé avait répondu dans le mystère dans les lettres, cette formule qui, elle, est parfaitement claire. Là, nous ne sommes pas dans l'obscurité. Il avait répondu par cette formule, je préfère, devant l'agression, rétorquer que des contemporains ne savent pas lire. Sinon, dans le journal, c'est-à-dire qu'au fond, la compétence de lecteur du commun des mortels se limite à cette compétence qu'on a acquise à l'école pour être capable de lire sans problème le journal. Mais lire de la poésie, lire la littérature en général, cela implique une compétence supérieure. Et cette compétence supérieure, elle est liée précisément à la nécessité de prendre conscience que la lecture ne va pas de soi, que ce n'est pas un acte naturel. C'est un apprentissage qui est devenu tellement naturel par l'école qu'il en est devenu inconscient. Il importe donc de favoriser un autre niveau de lecture qui, lui, prenne conscience de ce qui se joue lorsqu'on lit quelque chose, de cet acte cognitif qui se joue dans la lecture. Si l'on prend conscience que la lecture n'est pas innocente, qu'elle n'est pas naturelle, alors on a quelque chance d'aboutir à une compréhension plus en profondeur de ce qui se joue non pas seulement dans tel ou tel texte, mais dans ce que Mallarmé appelle le mystère dans les lettres, qui est le mystère humain le plus profond.